Hier, le 8 avril, se déroulait la conférence Féminisme et écologie, même combat, à la Faculté de sciences économiques organisée dans le cadre de la Semaine de l'environnement. C'était l'occasion de revenir sur le concept de l'écoféminisme et pour en parler, à la faculté, ils accueillaient Jeanne Burghardt-Goutal, professeure de philosophie. Elle est aujourd'hui dans notre studio, accompagnée de Marie, membre du collectif de la Semaine de l'environnement. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Donc la conférence abordait notamment des problématiques telles que l'histoire de ce mouvement qui était donc né dans les années 70, le lien entre féminisme et écologie, l'idée que les femmes seraient plus proches de la nature et le rapport entre domination masculine et destruction de l'environnement. De vastes questions que nous essaierons aujourd'hui d'aborder également dans cette interview, mais peut-être de manière un peu plus vulgarisée. Et j'aimerais d'abord m'adresser à toi Marie, organisatrice donc de cette semaine, parce que j'ai vu que la conférence était en prix libre et du coup je voulais savoir qu'est-ce que ça reflétait le fait que la conférence soit un prix libre par rapport à la philosophie de cet événement et de cette semaine de manière générale.
En fait, ce qu'on veut, c'est sensibiliser le maximum de gens, le public le plus large possible. Et du coup, on s'est dit que pour ça, le prix libre, c'était la manière la plus simple de faire venir le plus de gens. Parce que du coup, le prix libre, il est conscient. Et que dans l'idée, si tu n'as pas les moyens, tu peux quand même venir et donner quelques centimes. Et si tu les as, tu viens aussi et tu es peut-être un peu plus généreux. Et du coup, c'était l'idée.
De conscientiser un peu.
C'est ça.
Et justement, c'était donc à la faculté de sciences économiques. Est-ce que c'était un choix stratégique, enfin purement stratégique, ou est-ce qu'il y avait une volonté de toucher davantage les étudiants de centre-ville, par exemple ?
En fait, c'est un peu une question d'argent. En fait, on a eu des subventions de l'Université de Rennes. Et du coup, vu que c'est eux qui nous donnent de l'argent, on devait proposer des activités sur les campus. Et du coup, on s'est dit... Ouais, on avait le choix entre Beaulieu et le centre. On s'est dit que le centre, c'était plus accessible à plus de monde. Du coup, on a choisi le centre. Voilà. Puis le cloître, il est super beau, tout ça.
Oui, c'est vrai que c'est un beau lieu. Il y a un autre atelier, justement, le jeudi de 19h à 22h sur l'écoféminisme. Donc, c'est un atelier autour de l'écoféminisme et du fait que ce soit un outil politique de lutte. Donc, on revient sur ce même thème-là. Et est-ce que, du coup, pour vous deux, ça va être un peu, pour toi personnellement, puis après, on va partir plus avec toi, Jeanne. Est-ce que, du coup, il y a un lien pour toi, évident, entre féminisme et écologie, puisqu'il y a deux ateliers dessus, enfin, une conférence et un atelier dessus.
Je t'avouerais qu'en fait, je découvre un peu le truc cette semaine et que j'en suis très ravie. Et qu'en fait, du coup, c'est parce qu'on a un peu découvert, en faisant nos recherches sur ce qu'on voulait proposer pendant cette semaine, le concept et ce nouveau courant de pensée, qu'on s'est dit, vas-y, on propose des trucs. Ça s'est pas beaucoup fait à Rennes, presque pas du tout, en fait. C'est quelque chose qui est un peu localisé sur Paris. Du coup, on va proposer des choses et peut-être que ça va donner des idées aux gens et puis qu'ils vont pouvoir se décider. Est-ce que je mets le féminisme et l'écologie en même temps ? Est-ce que non ? Et du coup, je te dirais que j'ai écouté Jeanne parler lundi et que je me dis que pourquoi pas, hein, la convergence des luttes, c'est peut-être une bonne solution. Du coup, voilà pour moi.
Bon, chouette. On va revenir dessus, du coup, avec toi, Jeanne. Tu es notamment autrice de L'écoféminisme et la France, une inquiétante étrangeté, donc, qui est publiée en 2018 et qui est accessible gratuitement en PDF. J'ai vu ça tout à l'heure. Dans la première page, tu constates le manque de succès de la notion d'écoféminisme en France. On en entend parler depuis très peu. Tu le dis ça, tu viens de le découvrir récemment. On distingue clairement les deux luttes, écologie et féminisme. Selon toi, pourquoi ce mouvement est si peu connu ? Pourquoi est-ce qu'il y a un clivage si fort entre ces deux luttes-là ?
Alors déjà, c'est un mouvement qui est né en France, donc il y a un paradoxe. Enfin, le terme a été inventé en France, donc il y a un paradoxe à ce qu'il soit peu connu en France. Et ça s'explique, à mon sens, par un ensemble de facteurs concrets et abstraits, ou historiques et philosophiques. C'est-à-dire que historiquement, il y a eu un. C'est Françoise Daubonne qui était une militante du MLF, qui a inventé le mot en 74 et qui a fondé le premier groupe écoféministe. Et ça n'a pas pris, en fait, historiquement, la convergence entre les milieux féministes des années 70 et les milieux écolos des années 70 n'a pas fonctionné. Donc ça, c'est purement historique, factuel. Il y a eu quelques perches tendues par les écolos aux féministes, mais qu'elles n'ont pas saisies. Les féministes, elles n'ont pas vraiment fait de pas vers les écolos. C'était vraiment des milieux militants assez séparés. Après, théoriquement, ça s'explique aussi par le fait que le féminisme français... le féminisme en général, mais particulièrement en France, il est très marqué par une forme d'antinaturalisme, c'est-à-dire de méfiance à l'égard de l'idée de nature. Il y a la fameuse phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Dans le naître ici, il faut vraiment entendre l'étymologie, c'est-à-dire être par nature. Donc il y a une déconstruction de toute cette idée de nature féminine qui fait que les féministes, en particulier françaises, se sont trouvées très mal à l'aise avec ce courant qui mêle qui réintroduit le concept de nature dans le féminisme, alors que le féminisme a tellement bataillé pour l'éliminer et pour dénaturaliser les femmes et la féminité. Donc toutes les perches tendues par les écolos dans les années 70, début des années 80, n'ont pas été saisies, notamment pour cette raison-là, par la méfiance des féministes. Il y a des archives qui retracent des réunions où on voit les féministes disant « Non, avec cette notion de nature, on se remet à nous chosifier, à nous ramener à des pseudo-fonctions naturelles de la femme, du genre torcher les culs des bébés. » Donc il y a vraiment une intense méfiance. Voilà, ce qui fait que le pont n'a pas pu marcher et très vite le mouvement est complètement mort.
Dans les manifestations pour l'écologie ces derniers temps, on a pu voir pas mal de slogans justement qui se rejoignent ce mouvement d'écoféminisme. Et qui ont, d'ailleurs, les créateurs ont fait preuve de beaucoup de créativité. Je cite un des slogans « Ma planète, ma chatte, sauvons les zones humides ». Et pourquoi est-ce qu'il y a un déclic si récent par rapport à l'écoféminisme? Pourquoi il y a un revirement d'un coup là-dessus?
Alors en France, il y a un ensemble de faits. Donc, à mon sens, le déclic, c'est autour de la COP 21 qu'il a eu lieu, donc en décembre 2015. Cette COP, elle a eu lieu à Paris. Et c'est là qu'il y a eu... en tout cas, c'est là que j'ai commencé à remarquer un début de prise de conscience publique autour de ce sujet-là. Ça a été lié aussi à des questions éditoriales. C'est-à-dire qu'il y a une maison d'édition au sein de laquelle a été créée une collection qui s'appelle Sorcières, donc fondée par Isabelle Cambourakis. Et cette collection-là s'est mise à éditer en français des ouvrages écoféministes. Jusque-là, en français, il n'y avait presque rien d'accessible. Donc, les jeunes filles écolos ou féministes ou qui s'intéressaient à ces questions-là ont tout d'un coup eu accès à des textes qui, jusque-là, n'étaient pas traduits et ne se trouvaient pas dans les bibliothèques, ni dans les librairies, ni rien. Donc, il y a eu un peu cette opportunité-là. Et après, entre la convergence de la prise de conscience croissante de l'urgence climatique d'un côté, et tout le hashtag MeToo, balance ton porc, l'affaire Weinstein, des combats qui paraissaient être ringards ou secondaires, se sont mis vraiment à être sur le devant de la scène. Et voilà, donc cet ensemble de faits a ressuscité l'intérêt pour l'écoféminisme en France.
Donc je vais rappeler la définition de l'écoféminisme, c'est donc une philosophie, une éthique et un mouvement né de la conjonction et de l'union des courants de pensée féministes et écologistes. Est-ce que selon vous, cette définition, elle est juste? Est-ce qu'elle est suffisante?
Alors c'est très difficile en vrai de définir l'écoféminisme parce que c'est un mouvement qui se marque par sa diversité. Il y a plein de tendances, c'est un mouvement aussi dont les contours sont très flous parce que entre les écoféministes revendiqués qui vraiment réclament cette étiquette et qui finalement sont peu nombreuses, et à la fois des théoriciennes ou des théoriciens et des activistes qui articulent écologie et féminisme mais ne prennent pas cette étiquette, ça fait vraiment une nébuleuse très très complexe. Si on repart de la définition, en tout cas dans la définition que tu as donnée, ce qui me paraît important, c'est de voir qu'il y a à la fois une dimension théorique et une dimension pratique. C'est à la fois un courant d'idées et un mouvement dans lequel il y a eu des luttes. Et souvent, on occulte ce côté mouvement, en fait. On s'est beaucoup intéressé aux idées et peu à l'histoire des luttes, alors que c'est très important. Et qui articule féminisme et écologie, oui, mais pas n'importe quel féminisme ni n'importe quelle écologie. On pourrait dire que ça articule le féminisme radical et l'écologie profonde. Autrement dit, toutes les formes moins radicales de féminisme et d'écologie. Donc par exemple, en matière d'écologie, il y a certaines formes d'écologie qui sont incompatibles avec l'écoféminisme. Par exemple, toute l'écologie un peu simplement réformiste, du genre croissance verte, développement durable, qui cherche juste à faire des aménagements du système à la marge, ne sont pas compatibles avec l'écoféminisme qui veut un changement systémique total. De la même manière, le féminisme libéral, qui veut simplement, là aussi, conserver le système tel qu'il est, mais juste permettre à quelques femmes d'accéder à de plus hauts salaires, etc., n'est pas compatible avec l'écoféminisme qui veut un changement total. Donc c'est vraiment l'écologie profonde et le féminisme radical, autrement dit les versions les plus révolutionnaires ou qui visent le changement le plus massif qui se sont reliés dans l'écoféminisme.
Donc on peut qualifier l'écoféminisme vraiment de mouvement révolutionnaire pour le coup, d'anti-système?
Oui.
Ok. Dans le descriptif de l'événement, vous relevez la question donc, liée à l'idée que les femmes seraient donc, plus proches de la nature. Vous avez commencé, t'as commencé à en parler tout à l'heure. Moi, je m'intéresse beaucoup à cette idée-là, justement. Et on parle beaucoup, par exemple, des sorcières avec Mona Chollet, son livre qui a fait beaucoup de tollé et qui est très intéressant, d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, justement, sur cette notion-là? Est-ce que du coup il y a vraiment un lien plus fort entre femmes et nature? Parce que, enfin, vous le disiez tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est facile de tomber du coup dans le naturalisme et l'essentialisme au niveau féminisme.
Alors, est-ce que la question c'est ce que moi je pense ou ce qu'en disent les écoféministes?
Peut-être d'abord les écoféministes.
Ouais. Alors les écoféministes, eh ben aucune n'est d'accord. Enfin là encore, il y a une grande diversité de positions là-dessus. Certaines affirment que les femmes sont plus proches de la nature, d'autres pas du tout. Parmi celles qui affirment que les femmes sont plus proches de la nature, certaines affirment que les femmes sont naturellement plus proches de la nature. Donc il y aurait quelque chose dans, je ne sais pas, notre biologie, nos hormones, qui nous rendrait naturellement plus sensibles à la nature. D'autres refusent cette position-là, disent « c'est vrai qu'on constate une plus grande proximité des femmes à la nature. Par exemple, il y a un engagement écologique beaucoup plus important chez les femmes que chez les hommes. Mais ce n'est pas du tout pour des raisons naturelles. C'est juste parce que la construction sociale du genre féminin fait que les femmes se retrouvent par leur travail ou par leur rôle dans la famille, par leur rôle social, à des positions sociales et puis aussi à des rôles ou des stéréotypes qui les mettent plus en prise avec des réalités naturelles. Par exemple, avec les réalités naturelles du corps, puisque souvent, quand il y a s'occuper du corps des enfants, s'occuper du corps des gens malades, s'occuper du corps des vieux, c'est plutôt des activités qui sont assignées aux femmes. Et de la même façon, dans tous les symboles, il y a aussi des rapprochements qui sont faits entre femmes et nature. Donc, il n'y a pas de position unifiée des écoféministes là-dessus, plutôt une espèce de vaste ouverture de cette question. Et un approfondissement des différentes possibilités possibles de réponse et des différents intérêts stratégiques de ces différentes réponses.
Ok. Et donc justement par rapport à ce mouvement d'écoféminisme, on peut pas le qualifier donc d'essentialiste. C'est vaste. Il doit y avoir des femmes essentialistes dedans, mais pas que. En gros, c'est ça l'idée.
Exactement. Là aussi, on retrouve une diversité. Il y a certaines ont clairement une position essentialiste pleinement revendiquée. D'autres, au contraire, déconstruisent la notion d'essence féminine. C'est la plupart, d'ailleurs. Mais quelque chose qui est intéressant à comprendre, c'est que, en fait, donc c'est un mouvement qui est très largement américain. Enfin, anglo-saxon, on trouve aussi en Angleterre, en Australie, mais bon, c'est quand même surtout américain. Et en fait, l'héritage conceptuel aux États-Unis n'est pas le même qu'en France. Il y a des mots qui ne vont pas résonner pareil. Voilà, selon la tradition philosophique. Et aux États-Unis, par exemple, la notion de nature ou la notion d'essence n'a pas du tout l'espèce d'arrière-fond ou de parfum réac que ça peut avoir du point de vue de féministes françaises. Et donc, il y a eu tout un grand courant du féminisme américain, français aussi, mais vraiment peu, mais surtout américain, qui a revendiquer l'idée d'une essence féminine, qui a été un féministe différentialiste, donc assumant pleinement l'idée qu'il y a une essence féminine, une essence masculine, c'est pas la même chose, et qui a simplement fait ce qu'on appelle l'inversion du stigmate, donc en disant oui, il y a une essence féminine, mais elle est supérieure à l'essence masculine. Ah. Donc il a pu y avoir cette position stratégique-là, mais c'est vraiment pas la seule. Beaucoup, au contraire, ont déconstruit cette idée-là. Voilà.
Très vaste, donc. Je parlais de l'atelier du coup de jeudi sur les moyens de lutte justement liés à l'écoféminisme. Est-ce que l'écoféminisme peut être émancipateur justement? Est-ce que le fait de lier les deux luttes peut être un vrai moyen de lutte au final? C'est une grosse question là. Je sens là.
En tout cas, je pense que ça. Alors pour l'instant, donc Fanny et Lorraine qui viendront jeudi font partie d'un tout jeune collectif écoféministe. De recherche et d'action. Donc c'est vraiment les tout débuts d'une renaissance d'un mouvement écoféministe en France. Donc il est un peu tôt pour savoir exactement quels peuvent être les effets concrets. Ce qui est sûr, c'est que déjà à ces balbutiements, c'est émancipateur d'un certain nombre de limitations qu'on peut avoir dans les sphères écolo et dans les sphères féministes. Par exemple, avant ce collectif-là, il y a eu un collectif à Paris qui s'appelait Pied de Biche. Les filles qui ont fondé ce collectif, au début, elles avaient un engagement dans des groupes écolos et elles se sont rendues compte que le fonctionnement de ces groupes était très macho, qu'on retrouvait exactement les mêmes hiérarchies que d'habitude, et que c'était macho aussi au sens où il y avait une sorte d'interdit d'exprimer ses émotions, d'exprimer la peur qu'on avait face aux catastrophes climatiques. Fallait être dans l'action, etc. Donc déjà, ça les a émancipées de cette forme de militantisme qu'elles ont considéré comme très masculin, rationaliste, etc., en autorisant l'expression des émotions, l'expression des inquiétudes, des espoirs, des colères traditionnellement associées au féminin, les émotions. Je pense que en termes de résultats concrets, c'est difficile de se prononcer. En termes d'émancipation intérieure, c'est sûr que ça a des effets qui sont très clairement perceptibles.
En fait, c'est l'idée de s'émanciper, du coup, en trouvant un militantisme un peu différent, donc.
Oui, et puis il y a aussi toute une forme, alors je ne sais pas si le terme d'émancipation est juste, mais dans toute la réappropriation du corps et la réappropriation de la féminité que permet l'écoféminisme, toute la question, des questions qui ont été taboues pendant longtemps, y compris dans le féminisme, des règles du corps féminin, de l'utérus, des seins, de qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on peut être féministe et féminine, et qu'est-ce que ça veut dire. Et ça, c'est des tout ce retour à une forme de sensorialité, d'assumer son corps, etc., c'est aussi quelque chose qui est émancipateur dans l'écoféminisme.
Merci beaucoup à toutes les deux pour votre présence dans les studios, pour du coup nous avoir expliqué l'écoféminisme aujourd'hui.